FM。
Bonjour et bienvenue à votre troisième saison de Il est l'heure, Monseigneur. On a plaisir à vous retrouver. Alors aujourd'hui, on est en équipe réduite puisque je suis avec Ricardo. Bonjour Ricardo.
Bonjour Raphaël.
Bon, on a nos chroniqueurs collègues qui sont pas très bien cette semaine, donc on va les laisser se reposer encore 15 jours et puis j'espère qu'on va pouvoir compter sur eux. Toutefois, Jean-Jacques nous a envoyé une merveilleuse chronique, donc on va pouvoir partager avec vous un petit peu de sa culture musicale et puis un reportage aussi sur une prévention sur les consommateurs. Donc voilà. Aujourd'hui, et cette saison, on va essayer à nouveau de vous faire découvrir une année mystère avec des nouveaux morceaux de musique en relation avec cette année. Et on va commencer immédiatement avec...
Tu me prends pas à surprise. Ça commence bien, c'est la rentrée, donc tu vois, à mon rythme. Voilà. Alors, l'année mystère, le premier titre du coup ?
Exactement.
Je donne directement le nom de l'artiste ?
Oh, oui.
Ou il le devine ?
Allez, tu peux donner que le titre, ils vont deviner le reste.
Alors, pour moi, la vie va commencer.
Allez, on écoute tout de suite et on se retrouve tout de suite après.
Pour moi, la vie va commencer en revenant dans ce pays. Là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi la vie va commencer et mon passé sort de l'oubli, foulant le sol de ma prairie, chevauchant avec mes amis. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Je peux voir descendre la nuit sans avoir peur d'être surpris, tandis qu'au loin comme un troupeau passent les ombres des chevaux. Pour moi la vie va commencer. Et sous le ciel de ce pays, sans jamais connaître l'ennui, les années passeront sans bruit entre le ciel et mes amis. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer.
Vous l'aurez donc reconnu, c'était Johnny Hallyday avec « Pour moi, la vie va commencer ». Alors, on va s'excuser avec Ricardo parce qu'on est bien jeune et que dans l'année mystère, on n'était pas nés tous les deux. Donc, on a une culture qui est un peu réduite et on va vous parler plus de cinéma qu'autre chose. Ricardo, c'est le cinéphile de l'équipe. Pour autant, il y a des choses qu'on connaît tous. Alors, si je parle du gendarme à Saint-Tropez, on a tout de suite un petit air de musique qui trotte en tête.
Ben oui. Voilà. De Louis de Funès.
Voilà, Louis de Funès, qui s'appelait Fruchot. Hein. Et puis, on a d'autres films qui vont plus te plaire, je crois, Ricardo.
Oh, il y en a plein. Fantomas, déjà. Enfin, j'ai une petite liste devant moi, mais Fantomas, tu vois, c'est un film qui m'a un petit peu marqué à l'époque. Même Goldfinger aussi.
Ouais, donc un James Bond.
Oui, c'est quand même assez, enfin c'est mythique.
Alors dans la série, je saurais pas le replacer, Goldfinger. C'est pas le premier ou c'est le premier, je ne sais pas.
Alors là, tu me mets un doute. Alors si, alors c'est déjà, il faut que je me rappelle si c'est avec Moore ou avec celui qui a Sean Connery qui a décidé récemment.
Oh, donc non, Sean Connery est venu plus tard.
Plus tard, donc ça va être Moore en fait. Et je Goldfinger, je, non, je crois pas que ce soit le premier. Tu me mets un doute là.
Ah là là, que dit ton ami Google?
Alors je vais chercher.
Ton ami G, de Radio G. Donc, non, effectivement, James Bond, c'était les débuts d'une grande saga. Voilà. On a d'autres films dans des styles très variés. On a Angélique, hein, qui a été une grande série de films. Hein. On a aussi des films d'un style qui peut paraître parfois un peu désuet aujourd'hui, mais qui, malgré tout, se renouvelle de temps en temps, que sont les comédies musicales. Donc, dans l'année mystère, c'était par exemple Les Parapluies de Cherbourg. Et on a eu d'autres films comme Mary Poppins. Voilà. Bon, ce qui est certain, c'est que Ricardo et moi, on connaît surtout les films avec Louis de Funès.
Hein? Bah oui, c'est, hein? Je pense que ça, ce qui est bien avec Louis de Funès, c'est qu'il a réussi vraiment à traverser toutes les générations. Ah, c'est vraiment intergénérationnel. Moi, avec les petits neveux, je regarde encore des films de Louis de Funès et tu vois, ça parle et il a su faire rire, mais beaucoup de générations.
Le fait est qu'il fait rire effectivement les enfants, mais les grands enfants également que nous sommes. Voilà. Alors, Ricardo.
Alors, pour revenir à Goldfinger, là, par contre, tu vois, on avait un petit doute sur Moore ou Sean Connery, mais oui, c'était bien avec Sean Connery. Donc, ça veut dire que ce n'était pas le premier.
D'accord.
Oui, oui, non, c'est... tu vois, c'est, j'aurais pensé que...
Bon, on sème un peu plus le trouble dans l'année mystère. Hein. C'est pas si simple à deviner.
Eh oui. Bon, parce qu'on est remonté un peu loin. Enfin, ça dépend de pour qui on parle, mais oui.
Alors, on a écouté à l'instant Johnny Hallyday, et Johnny Hallyday, eh bien ma foi, il n'était pas tout seul dans sa vie. Il a été accompagné par de nombreuses femmes, dont Sylvie, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, Sylvie Vartan.
Voilà. Qui va nous interpréter
La plus belle pour aller danser.
Voilà.
Une chanson que j'adore d'ailleurs, au passage. Bah, tout le monde s'en fout, mais je le précise.
T'es souvent la plus belle, Ricardo. on se dit à tout de suite.
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Évincer toute celle que tu as aimée. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Où je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu que j'ai cousu point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés en décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour à mon cœur pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au sein des amours éternels il faut que le soir la plus belle pour aller danser.
Ben voilà, Ricardo, ah, tu étais la plus belle pour aller danser. Et voilà. Ricardo a le rythme dans la peau, hein, il faut le dire. Ouais, ou dans le sang.
Je ne peux pas en faire profiter vu qu'on est à la radio. Donc.
Ouais, mais, alors, moi, j'ai aussi le rythme dans le sang, mais j'ai une mauvaise circulation. Bon, on va écouter Jean-Jacques qui nous a envoyé une petite chronique. Voilà, il n'est pas avec nous aujourd'hui, il est un peu indisposé. On lui souhaite le meilleur. Jean-Jacques veut nous parler aujourd'hui des influenceurs. Alors, vous en entendez beaucoup parler à la télé, à la radio, dans les journaux. Voilà, on laisse Jean-Jacques nous présenter un petit peu son aperçu des influenceurs et puis on va compléter un petit peu le propos après. À tout de suite.
Bonjour. L'UFC Que Choisir, la défense des consommateurs, donne son avis sur les mauvais conseils des influenceurs. Les influenceurs sont des internautes intervenant par vidéo d'explication sur toutes sortes de sujets. Ils sont très suivis dans leur domaine, comme la mode, le maquillage ou le sport. Certains profitent de cette notoriété pour vanter des produits présentés comme intéressants. Mais c'est souvent l'arnaque. Parmi les personnalités très suivies sur les réseaux comme Instagram, YouTube ou Facebook, certaines ont acquis le statut d'influenceur. Leurs avis, démonstrations ou commentaires prennent une valeur considérable auprès des internautes qui les apprécient. Il suffit aux clients de commander en ligne en basculant de la vidéo sur le site vendeur, puis confirmer la commande après paiement par carte bancaire. Les grandes marques ont compris depuis longtemps que ces modèles d'opinion sont d'irremplaçables prescripteurs. Le moindre compliment de leur part peut déclencher des achats en masse sur un blouson, une crème de jour ou un bracelet de maintien. Le procédé est beaucoup plus rentable que les classiques publicités. Les acheteurs sont identifiés avec leur profil, leurs commentaires et habitudes. Les fabricants disposent d'un réseau de vente peu coûteux, très ciblé, au moins pour des produits à petit prix. Des agences spécialisées approchent les influenceurs, montent des partenariats. Les influenceurs sont évidemment rémunérés pour le placement de produits. Mais ils ne sont pas tous exigeants sur l'identité du vendeur, la qualité ou l'intérêt véritable du produit. Tout ce qui est sympa ou cool est bon pour la communauté. Bien sûr, ils affirment qu'ils sélectionnent parmi ces propositions commerciales et que leur conseil est plutôt celui d'un ami. Mais la réalité est plutôt celle d'un marché très avantageux pour les marques et ses acteurs du web, au détriment des acheteurs. On observe en réalité, parmi eux, beaucoup de victimes. L'appareil ne fonctionne pas. Le bracelet cuir est en plastique. La paire de bas n'est jamais livrée. Les réclamations sont une véritable épreuve parce que le vendeur n'existe plus ou ne répond pas depuis l'étranger. En effet, les recours en cas de problème sont la plupart du temps sans espoir. Le vendeur d'un produit médiocre ou non livré est insaisissable et l'influenceur ou son agence auront dégagé toute responsabilité dans leurs conditions d'usage.
Donc à bientôt effectivement Jean-Jacques, j'espère. Ricardo, on discutait là pendant l'intervention de Jean-Jacques, effectivement, oui. ce système des influenceurs concerne évidemment beaucoup les jeunes.
Oui, c'est plus générationnel. Voilà, oui. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, oui.
Mais on a noté aussi des seniors qui faisaient influenceurs et qui exposaient finalement ou leur passion ou leurs expériences variées.
Oui.
J'en ai noté quelques-unes. Alors, sur différents réseaux sociaux, que sont Facebook et Instagram essentiellement, on a par exemple Lance Walsh, qui est un homme qui, a priori, est passionné par la mode, et il a quand même 49 000 personnes abonnées. Donc, moi, c'est quelque chose, effectivement, qui me laisse un peu sur la faim, parce que, voilà, je pense que c'est des gens qui ont effectivement une influence sur un public, mais 49 000 personnes qui le suivent, c'est beaucoup.
Oui, mais il y en a qui ont des millions de personnes qui les suivent. Alors moi, déjà le mot influenceur, ça me gêne un petit peu parce que je trouve ça un peu péjoratif quand on dit que quelqu'un a de l'influence. Je trouve que ça a une connotation un peu malsaine, en fait, on va dire.
Je rejoins.
Voilà. Donc déjà le terme influenceur m'embête.
Oui, influenceur, ça embête, ouais.
Oui, le terme m'embête. Bah, après, bon, si on passe ce débat du nom, si la personne qui parle à une communauté a une réelle expertise dans le domaine où il parle, par exemple, je sais pas, quelqu'un de l'EDF qui nous parle de l'électricité et qui a une communauté et qui peut nous donner des conseils là-dessus, quelqu'un, alors dans un domaine, un médecin ou voilà, qui nous parle de son domaine, je veux bien, voilà, ça, oui, ça m'intéresse grandement, donc il apporte une expertise.
Tu veux dire que nos influenceurs de 17 ans aujourd'hui n'auraient pas de légitimité?
Non, mais ce qu'on observe beaucoup, c'est que pour moi, c'est apparu d'où ce phénomène, c'est avec la mode de la télé-réalité, où du jour au lendemain, ils étaient propulsés devant, on va dire, ils étaient starifiés, et cette image, ils savaient pas trop quoi en faire, en fait. On a vu qu'ils sont devenus des chanteurs, qu'ils sont devenus ici, ils ont une communauté qui les suit, une communauté de fans. Il faut bien rentabiliser un petit peu ça. J'ai rien contre, c'est ce qui est logique, hein, parce que voilà. Et avec l'arrivée de tous les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, bah, ça leur a permis de... ils remarquaient qu'ils avaient une certaine audience. Et comment utiliser cette audience? Bah, par la publicité. Et c'est une forme de publicité, oui, comme je dis, où j'ai... l'idée en lui-même, j'ai rien contre. Voilà. Maintenant, il faut aussi savoir que, comme pour citer Peter Parker, à grand pouvoir, grande responsabilité. Mm. On sait qu'on touche une communauté. Et souvent aussi beaucoup de jeunes, beaucoup d'ados. Donc, on a aussi un devoir. Je pense que ces gens ont aussi un devoir moral, en fait, on va dire. Ils doivent, en quelque sorte, savoir que bah, quand je recommande quelque chose, quand je prends un contrat de publicité, c'est comme une télé aujourd'hui. Je suis d'abord, c'est l'internet aujourd'hui, c'est un média. Et quand tu passes de la publicité, même si c'est pas toi qui es vendu du produit, tu en quelque sorte valides parce que tu la passes. Donc c'est juste qu'on va peut-être leur demander, on n'a rien contre, ils ont une communauté, ils l'exploitent, il y a...
Bon, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est finalement, c'est une manipulation déguisée, puisque c'est une publicité qui ne dit pas son nom, et qui rapporte à l'influenceur.
Ben oui, non, voilà. Mais voilà.
Donc ça, c'est très clair, ça peut être une de leurs motivations.
Oui, ben, je pense d'ailleurs que c'est la motivation principale. Après, il y en a qui sont très honnêtes et qui disent... qui précisent que c'est un placement de produit et dans quel contexte. Ça, oui, je suis tout à fait d'accord, mais voilà.
Après, tu parlais de la légitimité des influenceurs. On va garder le nom générique. Effectivement, à 17 ans, on ne l'est certainement pas, mais moi, j'ai rencontré, par exemple, en préparant, une personne de 70 ans qui parlait du bien vieillir. Bon, ben, elle a une forme de légitimité qu'on ne peut pas contester. Et après, libre à chacun, effectivement, de la suivre ou pas. Et elle en l'occurrence, alors, tous ceux et celles que j'ai retrouvés, c'est elle qui a la moins grande influence, puisqu'elle n'a que 16 000 abonnés. c'est déjà beaucoup. Et effectivement, elle s'affiche en disant « J'ai 70 ans, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête. » Et puis voilà. Est-ce qu'elle en fait profiter les autres ou est-ce qu'elle l'exploite de manière intéressée? Ça, je ne saurais le dire.
Alors ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Quand je parlais de l'expertise dans un domaine, par exemple dans un domaine précis parce qu'on a des connaissances dedans, il y a aussi une certaine forme d'expertise. Le vécu, enfin l'empirique est aussi une forme d'expertise. Parce que cette personne, enfin, à 70 ans, elle raconte son expérience. Et elle n'usurpe pas une certaine place de elle se met pas médecin géanto ou voilà, et juste elle expose son vécu, ce qui n'est pas toujours le cas en fait de certains qui conseillent des produits de beauté, ou je donne un exemple comme ça, hein, un produit de beauté, ils savent pas peut-être la provenance, la marque, le, enfin tu vois, et c'est tout ça qui est un peu fâcheux parfois,
c'est ça. J'avais noté deux autres influenceurs seniors, ou du moins qui se définissent comme tels. J'ai un jeune senior, hein, puisqu'il y en a un qui a appelé son blog sur Instagram 50 ans et alors. Bon, est-ce qu'on est senior à 50 ans? Je vous laisserai juger par vous-même. Certains se le sentent, d'autres non.
Oh, 50 ans, c'est encore jeune.
Ouais, on peut encore faire du skate à 50 ans, enfin, c'est facile. Bon, et puis, il y a une autre personne abonnée qui est Françoise. Elle m'a bien plu, hein, pour tout vous dire. Son blog s'appelle « Je ne suis pas une senior ». Je ne sais pas quel âge elle a, elle ne s'est pas affichée comme telle, mais elle a 107 000 abonnés, 107 000 abonnés, et elle a plaisir à partager effectivement sur des sujets variés. La vidéo que j'ai vue, c'était sur l'habillement où elle mettait des vêtements, on va dire, entre guillemets de jeune, et elle s'en amusait. Alors, est-ce qu'elle est comme ça au quotidien? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle joue un rôle? Je ne sais pas, mais voilà. On peut être senior et s'amuser avec Internet.
Oui. Voilà. D'ailleurs, on encourage les seniors. Comme on dit tout à l'heure, et ça, par exemple, tu vois, tout ce que tu cites là en matière de alors, je répète le thème influenceur, mais ça m'embête un petit peu. En matière d'influenceur, moi, je trouve que ça allait plutôt positif. Tu vois, c'est pas des gens qui, c'est des gens qui racontent juste leur vécu sans prétention.
C'est ça.
Et qu'on ne retrouve pas dans la grande majorité.
Et alors ceux que je n'ai pas noté le nom, pardon, mais il y avait un carnet de voyage qui était extraordinaire. La personne mettait en ligne des photos de voyage et donc, j'ai envie de dire,
ça
nous fait voyager très simplement. Pour ceux qui ont la chance d'aller parcourir les lieux, eh bien ça leur rappelle des souvenirs, ça leur fait voir comment les cités ont pu évoluer. Et sincèrement, enfin voilà, on peut être influenceur ou blogueur, on peut dire comme on veut, enfin sur des thématiques très variées, que ce soit finalement les petits enfants, que ce soit la cuisine, que ce soit les voyages, la mode, enfin voilà, être influenceur, ça veut tout dire et rien dire.
Oui. Ça rejoint, excuse-moi, je t'avais peut-être coupé, mais ça rejoint ce qu'on pense d'Internet en général, c'est que il y a à boire et à manger, il y a du bon, il y a du mauvais en fait. Donc c'est tout dépend de l'utilisation que chacun en fait, et c'est juste faire attention à ce qu'on fait, voilà. Ce qu'on a comme retour. Mais
et pour revenir à Jean-Jacques, il a quand même raison de nous alerter sur les dérives de certaines pratiques où effectivement il suffit de cliquer sur un petit lien pour acheter parfois. Alors, pas totalement à notre insu, parce qu'il y a forcément un moment où on sort la carte bleue, mais effectivement, on peut se faire piéger.
Et beaucoup, oui, il y a avec le phénomène, ce que les jeunes appellent. Je dis les jeunes. Je me suis vieilli en quelques minutes, mais ce qu'on appelle souvent les dropshipping, c'est-à-dire des vendeurs souvent du produit fabriqué en Chine, qui est issu des sites chinois, mais qui sont vendus 4-5 fois plus cher ici par l'intermédiaire des influenceurs, alors que on peut l'avoir directement sur un site chinois, quoi.
Ouais, voilà. Tout à fait. Donc,
dans la qualité, n'est peut-être pas toujours au rendez-vous aussi. Ouais. Donc,
on va enchaîner avec la troisième chanson, Ricardo.
Oui.
Je te laisse faire le lancement. T'es au point maintenant.
Tu veux que je le lance jusqu'où? Pas trop loin, à côté. Troisième chanson, c'est Hugo Frey. Dès que le printemps revient.
Bon, on va laisser déjà passer l'automne et l'hiver et puis on en reparle après. Allez, à tout de suite. Hein. Alors, c'était donc Hugo Frey avec « Dès que le printemps revient », voilà. Bon, l'arrière-saison de l'été est pas mal, on va essayer d'en profiter un petit peu encore. On a une nouvelle... Pardon.
Vas-y. Ah non, non, non.
j'ai coupé Ricardo, je vous prie de m'excuser. Vas-y, Ricardo.
Pas de souci. Non, 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 je dis surtout qu'on n'a pas eu, d'été, donc...
Oui, c'est ça.
On se rattrape un petit peu, c'est comme ça. On peut.
on a une nouvelle chronique à vous proposer, alors le temps de caler le jingle, et on revient vers vous tout de suite.
Bon. Il a répondu, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire.
Donc cette nouvelle chronique s'appelle « Pour ou contre ». Alors, on ne va pas faire de sujet trop polémique, mais aujourd'hui, on voulait vous proposer « Pour ou contre les animaux domestiques ». Alors Ricardo, est-ce que toi, tu as des animaux domestiques d'abord ?
Non, 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 j'en ai pas. Bon, je ne referai pas la blague que j'ai faite tout à l'heure en direct, je ne l'assume pas, mais non, non, je n'ai pas d'animaux domestiques.
Donc, on va dire que Ricardo va incarner le contre, donc.
C'est pas le contre, parce que j'ai grandi, en fait, avec des animaux domestiques. J'aime beaucoup les animaux. Enfin, chez moi, c'était 30 millions d'amis, hein, ouais. Mes parents, oui. Donc, j'ai grandi avec des animaux. Alors, pourquoi j'en ai pas actuellement ? C'est le temps de s'en occuper. Parce que je pars du principe que quand tu as des animaux, il faut leur accorder beaucoup de temps.
Alors, Ricardo rentre déjà dans le débat, c'est bien ça. Alors, moi, je vais quand même dire que je suis pour avoir des animaux domestiques, pour diverses raisons. Hein. J'ai un chien et deux chats. Voilà.
Pour quelqu'un qui n'est pas pour.
Alors si, je suis pour, je suis vraiment pour, mais ah après, oui, effectivement, okay. Du temps, effectivement, ça demande un petit peu de temps, mais c'est pas très compliqué, ça dépend de la nature de l'animal domestique, en fait.
Oui. Bah, un poisson rouge, évidemment.
Exactement, mais le poisson ne demande aucune attention, et pour autant, je suis sûr qu'il génère du bienfait à son maître. Si on peut parler de maître pour un poisson rouge. Mais en revanche, on va lister un petit peu les animaux domestiques. On a évidemment les plus connus, les chiens et les chats.
Oui. Hein.
On a des lapins. De plus en plus, on voit autour de nous, même en ville, des poules. Et on va passer les autres animaux domestiques un petit peu exotiques.
Oui. Hein.
Mais toujours est-il que moi, je pense que ça contribue effectivement à l'éducation et puis plein de choses. Quand on a des enfants, c'est mon cas, ça permet d'éduquer l'attachement, la responsabilité.
Ça responsabilise, c'est surtout ouais. Ça, oui.
Le détachement aussi, parce que malheureusement, un animal, c'est pas toujours éternel. Et je me suis posé la question de la longévité de certains animaux. Le chien, l'espérance de vie moyenne, alors on parle moyenne parce que les gros chiens et les petits chiens n'ont pas du tout les mêmes espérances de vie, mais c'est 11 ans. Un chat, alors lui, il a tout gagné, lui. C'est 15 à 20 ans. Oui. Voilà, alors, sachant qu'il y en a la moitié qui passe sous des roues de voiture, malheureusement. Le lapin, 8 à 12 ans. Alors ça, j'étais surpris, je pensais pas que ça vivait si longtemps, le lapin. Et j'ai pas dû être un très bon maître, moi, puisque j'ai souvenir de hamsters ou autres qui vivaient pas si longtemps avec mes enfants aînés. Donc voilà, c'est vrai que ses compagnons, c'est presque des membres de la famille, parfois.
Ah oui, totalement. C'est pourquoi je parlais de temps de s'en occuper. Moi, avoir un animal de compagnie, enfin, qui demande du temps, un chien, par exemple, parce que si je pense que la dépendance pour un chat, il est dépendant, mais pas autant qu'un chien. Hein. Enfin, un chat, sans toi, il fait sa vie. Il n'y a pas les promenades obligatoires comme chez les chiens. Mais par exemple, un chien... Enfin, moi, je suis plus chien que chat. Enfin, je sais que beaucoup, beaucoup aiment... chat, j'ai grandi avec beaucoup de chats, hein, mais je suis plus chien parce que j'ai besoin du côté relationnel, côté joueur, côté affectueux. Je trouve que oui, c'est comme avoir un enfant en bas âge, quoi. Il faut vraiment avoir le temps de s'en occuper. Pardonnez-moi la comparaison, mais non, mais c'est totalement ça. Quand on va partir... Pour moi, qui suis quelqu'un qui voyage beaucoup, qui aime le voyage, il faudra prévoir à chaque fois... où le mettre. Et en plus, des fois, je pars pour de très longues périodes. Je pars 3 semaines, 1 mois. Faut prévoir.
C'est là où c'est effectivement une grande responsabilité. Et moi, je supplie effectivement les personnes qui veulent avoir des animaux d'assumer pleinement cette responsabilité.
Oui, parce que justement, on tombe dans l'effet de mode où « Ah ben, il est trop beau, je le veux ». Et on se retrouve en été à l'abandonner au bord de la route qui est calme. Vraiment horrible, voilà, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus.
Oui, ce sont des gens qui ne sont pas dignes, à mon avis, d'avoir des animaux. Je ne sais pas ce qui les a motivés à en vouloir, mais effectivement...
Comme je dis, l'effet de mode, ouais. Il est beau, on le prend.
Alors moi, j'avais quand même des arguments pour être pour avoir des animaux domestiques. Alors d'abord, c'est le contact social, parce que un animal, ça peut tromper la solitude.
Même plus.
C'est un être avec lequel on peut créer une relation. Il nous comprend parfaitement. Moi, je suis très surpris souvent. Donc oui, l'animal peut, on va dire, compenser une certaine forme d'isolement ou de solitude. Et le chien comme le chat peuvent parfaitement comprendre le maître et interagir avec lui.
Tout à fait. Et ce qui est génial au niveau des animaux, ils te rendent l'amour que tu leur donnes.
C'est ça.
Et sans condition. Ce qu'on peut pas retrouver chez les humains. Un chanteur contemporain, faut pas le citer, qui dit plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Les animaux sont et d'ailleurs aujourd'hui dans beaucoup de thérapies on l'utilise. Par exemple dans la médiation animale, voilà, dans la médiation animale au niveau des dans les maladies neuroévolutives, on retrouve beaucoup les animaux qui sont utilisés.
Alors est-ce que c'est en lien avec la gestion du stress, parce que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, les animaux ont un pouvoir de relaxation sur leur maître que je ne soupçonnais pas à ce point. J'ai vu vraiment des chiffres étonnants. J'ai pas voulu vous rapporter pour pas alourdir le propos, mais le ronronnement du chat, il semblerait que ça a vraiment des vertus médicales. Moi, je suis surpris. Mes chats sont trop indépendants pour venir me ronronner sur l'épaule, mais c'est étonnant, quoi.
Rien que le bruit, par exemple, des oiseaux dans la nature, on sait que c'est un côté apaisant. Mais le côté ronronnement du chat, tout ça, je trouve que ça rentre aussi dans ça rejoint le côté affectueux dont on parlait tout à l'heure. Il y a même, enfin. Tout le monde, hein, quand on a de on sent un retour d'affection, on sent qu'on existe et qu'on est important pour quelqu'un, ce qui est peut-être le cas au niveau des animaux, c'est un côté apaisant. Ouais. Au-delà du bruit, hein, sorti du cadre de simple, le simple côté apaisant du bruit.
Après,
et les caresses aussi. Ouais.
Après, il me semble que les animaux sont aussi des vecteurs de mobilisation. Donc, il y a une activité physique minimale qui fait que les maîtres se portent mieux que des gens sédentaires. Les études ne quantifient pas l'espérance de vie supplémentaire gagnée grâce aux animaux, mais il semblerait qu'on vieillisse mieux avec un animal.
Parce que oui, rien que le fait d'aller promener le chien tous les jours, par exemple, ça oblige à faire de la marche. Donc, au moins, ça c'est une forme d'activité physique.
C'est pour ça que j'ai toujours l'impression d'avoir 20 ans, moi.
Je vois, moi qui pensais que c'était tous tes enfants qui te faisaient courir.
C'est ça. Bon, Ricardo, en fait, je vois que t'es pas très contre les animaux domestiques, mais il y a quand même des inconvénients, faut le dire.
Comme toute chose. Je sais pas si on peut parler d'inconvénients, mais oui, il y a des côtés, il y a des choses moins.
Les odeurs. Voilà. Ça sent pas toujours bon, le chien mouillé ou le chat mouillé ne sent pas bon, je confirme.
Les chaussettes d'ado non plus, mais on la garde quand même. Non, mais je suis d'accord avec toi, les odeurs, la dégradation du mobilier à la maison.
Alors là, tu parles des chats, là.
Les chiens aussi, hein.
Oui, c'est vrai.
Moi, j'ai déjà eu des chiens, enfin, comme je dis, j'ai même grandi avec des chiens, des chats. Et tu reviens et t'as le canapé déchiqueté.
C'est ça, après, ça demande de l'éducation. C'est pour ça que c'était une trop grande responsabilité pour toi. Non, les allergies, les poils, effectivement, c'est des choses qui peuvent freiner des personnes. Mais il existe parfois des choses très simples. Moi, j'ai un chien qui ne perd pas ses poils. C'est un inconvénient, c'est qu'il faut le brosser. Mais et effectivement, il y a des gens qui sont hypersensibles et qui peuvent pas en profiter. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi le poisson.
Oui.
Le poisson ne perd pas ses poils.
Oui, il est moins joie, mais il perd pas ses poils. Non, mais il y a aussi, après, pour certains animaux aussi, il y a le côté financier aussi, hein. En prendre soin.
Oui, alors demande. Là, non. C'est un contre-argument que je t'avance parce que je te remercie de le dire, mais il semblerait que les personnes qui ont des animaux consultent beaucoup moins leur médecin que des gens qui n'ont pas d'animaux.
Ils consultent plus le vétérinaire, par contre.
La dépense que l'on fait chez le vétérinaire ou sur les croquettes, enfin les aliments, les consommables, hein, c'est un poste d'économie sur d'autres sujets. On va par exemple beaucoup plus marcher et entretenir sa propre santé, donc on va moins chez le médecin. C'est une question d'équilibre.
Oui, non, mais j'en doute pas. J'encourage d'ailleurs les gens à en avoir quand on peut. Mais il y a forcément des situations, qui peuvent arriver où ça peut être excessivement cher. Les dépenses, malheureusement, j'ai une amie dont le chat s'est cassé une patte. La dépense chez le vétérinaire parfois.
C'est une centaine d'euros là, effectivement, et c'est jamais le bienvenu.
Leur affection et tout ce qui nous rend en vaut la peine. Quand on a le temps de s'en occuper.
Voilà. Après, effectivement, ça reste une contrainte. Pour un chien, il faut le sortir. Hein. C'est rare. Un chien ne fait pas dans une litière, pas à ma connaissance. Par contre, c'est vrai que les chats sont plus indépendants, plus autonomes. Oui. Et il faut leur rendre leur intérieur, on va dire, vivable. Donc, l'hygiène qu'on s'applique à soi-même, il faut l'appliquer aussi aux animaux.
Oui.
Voilà. On a fait le tour sur les animaux, Ricardo. Donc au final, t'es plutôt pour.
Oh oui, complètement.
Bon bah écoutez,
j'en ai pas actuellement, comme je dis, à cause de la responsabilité, mais oui, complètement pour. Bon,
à vous de voir maintenant si vous êtes pour ou contre les animaux. On n'a pas parlé des animaux en établissement. C'est vrai que ça, il y a des établissements qui refusent des animaux, mais il y en a aussi qui en acceptent.
Ouais.
Et c'est vrai que pour certains, c'est un critère de choix important. Mais je vous invite à tout simplement vous renseigner et puis faire vos choix en conséquence. Voilà. On va enchaîner avec une nouvelle petite chanson et puis derrière, on aura une chronique musicale de Jean-Jacques sur un album de Johnny Hallyday, dites donc. Donc là, la quatrième chanson, excusez-moi, je suis en train de la chercher.
Elle s'est perdue dans le studio, la chanson.
Ouais, parce que je l'ai mise. Et si, voilà. Donc, il s'agit de Sheila, voilà, avec Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. À tout de suite.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
Et nous
Voilà, c'était Sheila avec vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Je suis certain que ça rappelle de beaux souvenirs à nos têtes blanches, si on peut dire comme ça. Est-ce qu'on annonce l'année en question, puisque après Jean-Jacques va nous parler de l'album de l'année?
Oui, je pense qu'avec toutes les chansons qu'on a passées, c'était en rang de une.
Alors voilà, il s'agit de l'année 1964. Jean-Jacques va nous parler de l'album de l'année qui était un album de Johnny Hallyday, qui était plutôt rock'n'roll. Et bah, je vous laisse découvrir la chronique de Jean-Jacques. À tout de suite.
L'album de Johnny Hallyday, Johnny revient à les rocks les plus terribles, je m'en souviens. Il est donc sorti en 1964, j'avais 10 ans. Mais il me faisait un peu peur. Le côté cuir, blouson noir. Il faut dire que ce qui passait le plus souvent à la radio était très peu rock. Et même les succès grand public de Johnny, dans mon souvenir du moins, car vous savez bien que près de 60 ans après, eh bien, ces succès, disais-je, n'avaient pas l'agressivité qu'on peut ressentir en réécoutant ces adaptations de classiques du rock'n'roll chantées à l'origine par les plus grands du rock international. Elvis, Chuck Berry, Jan Vincent, Little Richard, Jerry Lee Lewis, etc. On sait d'ailleurs que la plupart des chansons interprétées par beaucoup des jeunes artistes dans les années 60 n'étaient bien souvent que des adaptations de titres anglo-saxons. Je n'ai pas dit toutes, mais beaucoup quand même. Et même si quelques vrais créateurs ont bien créé à l'époque, il a quand même fallu attendre les années 70 puis 80 pour que les Berger et autres Goldman fournissent au public francophone des chansons pouvant rivaliser dans le genre variété pop sur les territoires français avec les productions anglaises et américaines. Les morceaux de cet album de Johnny ont été assez peu diffusés, mais les versions en langue anglaise l'ont été et interprétées par de nombreux groupes pop des années 60 et 70. Parmi ces morceaux, celui que tu préfères, bah c'est le titre. À l'origine, Let Me Be Your Teddy Bear, chanté par Elvis Presley.
Qu'est-ce que tu préfères ? Je te serai docile, je te suivrai partout. La vie sera facile et les heures plus douces entre nous. Je veux être celui que tu préfères, mets des chaînes autour de moi.
Et puis, Sally, c'est le Long Tall Sally de Little Richard, dans la même veine que l'original, mais en moins aigu.
Oh Sally, je sortirai tout seul ce soir. Ouais. Et tu pourras dire que c'est ta faute si cet amour-là n'est plus le nôtre. Oh Sally, oui c'est.
Oh Carol, tout simplement Carol de Chuck Berry, avec l'une des intros riffs de guitare les plus connues du rock'n'roll, et bien souvent copiées ou relookées.
Ce soir si je suis là, c'est pour te dire qu'il ne viendra pas. Ça ne vaut pas la peine de pleurer pour ça. Tu le remplaceras d'ici 8 jours, tu l'oublieras. Et quand il saura que tu t'es consolé dans mes bras, ce jour-là peut-être enfin il reviendra vers toi.
Tu me quittes. My baby left me. Encore d'Elvis.
Ce soir tu me quittes. Pourtant dans mon cœur, je n'ai pas de peine, je n'ai pas de peur. Si tu me quittes, ah, si tu me quittes, entre nous ce n'était qu'un jeu, j'en suis bien heureux. Oui, tout seul à ma fenêtre, oui je te vois partir, et mon cœur ne regrette pas un souvenir. Si tu me quittes, ah, si tu me quittes, entre nous ce n'était qu'un jeu, j'en suis bien heureux.
Suzy Lou, version française de Suzy Q, dont l'interprétation la plus connue est probablement celle du groupe Creedence Clearwater Revival, dont Johnny fera plus tard une version au moins aussi bonne, sinon mieux, du Fortunate Song, qui donnera Fils de Personne.
Oh
plus que mon avis.
Oh Suzy Lou, où es-tu ma Suzy Lou? Ne te souviens-tu pas de nos nuits, de nos joies? Oui, depuis le soleil s'enfuit à mon réveil, ma Suzy Lou. Oh Suzy Lou, oh Suzy Lou, chérie, où es-tu ma Suzy Lou? Un jour tu t'es lassée, un autre a tout changé. Avec des mots troublants, il a pris tes 16 ans, ma Suzy Lou.
Johnny revient. Eh bien, c'est tout simplement le célébrissime Johnny B. Goode de Chuck Berry, réinterprété quelques années plus tard, notamment par Jimi Hendrix et par Marty McFly dans le film Retour vers le futur.
J'étais avec une fille qui me plaisait bien, mais j'ai dû la quitter sans attendre demain. Malgré son amour, elle ne me comprenait pas, car elle était bien trop différente de moi. Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée. Si tant que je la vois, elle ne sait qu'elle répéter. Reviens, Johnny, reviens, viens. Johnny, reviens, viens. Johnny, reviens, oui, viens. Johnny, reviens, viens. Ah, reviens vers moi. Et quand j'aurais voulu la voir seule avec moi, elle a mené des copains qui troublaient ma joie. Quand je voulais sortir, elle ne le voulait pas. Si je ne cédais pas, elle pleurait dans mes bras. Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée. Si tant que je la vois, elle ne sait que répéter. Reviens, Johnny, reviens. Reviens vers moi. Yo!
Bien sûr, il y a eu bien d'autres standards du rock repris par Johnny, mais ce 33 tours a fait date pour les fans de la première heure. En tout, 12 titres qui ont la pêche dans ce disque 33 tours du Johnny des années 60. Des compositions américaines qui sont toutes devenues légendaires pour le public qui aime le rock and roll.
Merci Jean-Jacques pour ta chronique et ton sens de critique de la musique. On va se quitter avec une chanson de Johnny, mais on la passe tout de suite et après on se retrouve pour l'agenda de la semaine. Voilà. À tout de suite.
Je crois bien que c'est lui que j'aperçois là-bas.
c'est bien fini pour moi. Il y a trop de joie dans tes yeux, c'est bien fini pour moi.
Voilà, c'était Johnny Hallyday avec une chanson de 1964. Ricardo, l'agenda de la semaine, est-ce que tu as des choses à nous dire en cette semaine du 20 septembre ?
Rien de particulier, jusque la halte répute d'éteinte Alzheimer de la Croix-Rouge à Angers réouvre l'accueil au public le 6 octobre prochain. Donc on est heureux de pouvoir encore à nouveau accueillir du monde. On s'était limité ces derniers temps uniquement aux activités à distance, donc ça va faire du bien, j'espère, à nos bénéficiaires. Bon. Et à nous aussi.
Alors, je précise que l'émission étant enregistrée, effectivement, c'est pas facile de coller toujours à l'actualité. Moi, je voudrais vous parler du cinéma Les 400 coups, qui, ce lundi 20 septembre, diffuse à 20h le film The Father. Si vous aimez le cinéma, j'ai envie de vous dire, précipitez-vous. C'est un film qui a reçu un double Oscar, c'est assez rare pour le préciser. Et honnêtement, Anthony Hopkins est fabuleux dans son interprétation d'une personne vieillissante qui, voilà, se cherche et parfois est un petit peu perdu, faut le dire. Mais c'est filmé d'une telle manière que on comprend toute la problématique que l'on peut avoir. Je précise que ce film est diffusé donc aux 400 coups et que vous pouvez être invité par le CCAS de la ville d'Angers. Donc je vous invite à les appeler pour savoir si il leur reste des places. Je vous donne le numéro de téléphone. Il s'agit du 02 41 24 15 26. Je répète, 02 41 24 15 26. Et voilà, on aura plaisir à vous y retrouver. J'y serai pour ma part. Et si vous souhaitez échanger, eh bien voilà, on aura plaisir à échanger avec vous.
Super film avec un super acteur, donc oui.
Bon, français. Voilà. Et puis, une information comme la haltérophilie et détente Alzheimer de la Croix-Rouge, une petite information, France Alzheimer 49 quand même.
Pour pas faire jaloux.
Le mardi 21 septembre, c'est la journée mondiale Alzheimer, donc vous allez en entendre parler à la radio, vous allez peut-être le voir sur la presse quotidienne, vous allez probablement le voir à la télé. Eh bien moi, je vous invite à venir nous voir au parc de l'Arboretum d'Angers, qui se trouve dans les quartiers sud, et on sera à votre disposition toute la journée, et un temps fort qui permettra, bien, j'ai envie de dire, de partager entre l'association France Alzheimer 49 et la ville d'Angers, de conclure une charte de ville aidante Alzheimer, voilà, qui permettra, j'espère, à tous les administrés et usagers d'avoir un accompagnement toujours de meilleure qualité. Voilà. Donc venez à notre rencontre ce mardi 21 septembre. Voilà, de 14h à 18h, vous serez les bienvenus, on vous accueillera bien volontiers.
Et surtout, n'oubliez pas, l'UFC Que Choisir fête ses 70 ans cette année. À cette exceptionnelle occasion, un van aux couleurs de l'Association de défense des consommateurs circulera dans toute la France. Et, super, il stationnera à Angers, place du ralliement, les lundis 27 et mardi 28 septembre. Venez nous rencontrer et vous informer. De nombreuses animations vous seront proposées. Pour tout contact avec l'UFC Que Choisir Maine-et-Loire, nous sommes dans le magnifique bâtiment des associations Espace Frédéric Mistral, 4 Allée des Baladins, quartier La Roseraie, à proximité du centre Jean Villard. Prenez rendez-vous au téléphone 02 41 88 56 42 ou sur notre site UFC Que Choisir de Maine-et-Loire. À bientôt!
Ricardo, on a fait le tour.
Oui, c'est la rentrée, on va dire, et surtout le retour au studio pour moi, parce que je n'étais pas la dernière émission.
Faut nous excuser, on est encore en rodage, on se chauffe, et puis on aura plaisir à vous retrouver dans une quinzaine de jours. pour la deuxième émission de la saison 3 de Il est l'heure, Monseigneur. À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bières et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis